Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue sur Accent. Alors aujourd'hui, 13 pays européens autorisent le mariage homosexuel et 25 l'union civile. L'Estonie, elle, se retrouve dans le deuxième groupe depuis le 9 octobre 2014, quand le pays balte a adopté le texte légalisant les unions entre couples du même sexe. C'est alors la première des ex-républiques soviétiques à franchir le pas. Mais l'avancée est de courte durée. Certes, le texte est entré en vigueur ce 1er janvier, mais amputé de sa loi d'application. Au Parlement, le processus est au point mort, le signe peut-être d'une certaine droitisation de la vie politique en Estonie. Et c'est le reportage de Marielle Vitureau.
Les locaux d'OMA, le centre d'information LGBT d'Estonie, sont situés au rez-de-chaussée d'une artère passante de Tallinn, à quelques pas de la vieille ville et du Riigikogu, le parlement estonien. C'est là qu'Alvar nous attend. Carrure imposante, barbe fournie et regard doux, ce spécialiste de la vente est en couple avec Dima, un autre quinquagénaire homosexuel originaire de Saint-Pétersbourg.
Quand j'ai entendu aux informations que cette loi était en délibération au Parlement, j'ai été complètement sidéré. Je n'avais même pas eu vent d'action de lobbying dans ce sens. On ressent sa fierté grandir et puis on se dit alors que tout n'est pas perdu dans ce pays. De toute façon, l'Estonie a en quelque sorte toujours été pionnière, même quand elle était occupée par l'Union soviétique.
Le 9
octobre 2014, la loi est votée avec 40 voix pour et 38 contre. Une très courte majorité, bien que le texte ait été défendu par le Parti de la Réforme et les sociaux-démocrates au pouvoir. Les mois précédant le vote, opposants et partisans à cette union civile se sont opposés avec force par tribunes et manifestations interposées, mais l'euphorie a été de courte durée. Aujourd'hui, le processus est au point mort, la faute à un changement de conjoncture politique pour Kristian Koljalg, député du Parti de la Réforme et membre du comité légal.
Les élections législatives se sont déroulées au printemps 2015. Certains députés pensaient que la nouvelle législature serait plus progressiste, plus tournée vers l'Ouest. Mais c'est l'extrême droite qui a été élue et cette question de l'union civile est l'un de leurs chevaux de bataille.
Dans un pays où l'institution du mariage est peu populaire et la moitié des enfants naissent hors mariage, on aurait pu croire qu'une loi sur l'union civile allait passer presque inaperçue. Hélène Talalaev est à la tête de l'association LGBT.
Jusqu'en 92, l'homosexualité masculine était répréhensible. Quand on regarde les sondages, on note qu'une majorité est contre les gays ou les unions de même sexe. Mais parallèlement, les gens ont très peu de contact personnel avec ces personnes. Et ces gens considèrent les homos comme une masse anonyme qui leur est étrangère et qu'ils peuvent facilement haïr.
L'entrée en vigueur de cette loi est pourtant nécessaire pour Alva. Son application a des conséquences concrètes et il espère pouvoir signer son pacte d'union civile dès que possible.
Si je devais être hospitalisé ou si c'était mon compagnon, aucun d'entre nous ne pourrait être au chevet de l'autre car nous ne sommes pas encore officiellement considérés comme une famille. La situation est pire encore quand elle concerne les enfants.
En janvier, 10 couples ont conclu une union. Les décrets d'application de la loi ne font qu'actualiser la législation estonienne et leur absence ne rend pas la loi caduque. Mais au Parlement, les opposants ne baissent pas la garde. La loi d'application subit des coupes, fait des allers-retours entre les comités et cet imbroglio a même fait vaciller la coalition. Martin Helme est à la tête de la fraction parlementaire ECRE, située très à droite.
Absolute majority of the Estonian people don't think that state.
Une majorité absolue des Estoniens pense que l'État ne doit pas approuver ces relations entre personnes de même sexe et encore moins légaliser ces unions. Nous voulons tout simplement annuler la loi. Nous avons présenté un texte dans ce sens et il a été rejeté à une très courte majorité.
Même si Hélène de l'association LGBT note une certaine ouverture avec l'apparition de témoignages de couples de même sexe dans les médias, cette bataille juridique l'inquiète pourtant.
Certains partis politiques ont donné une direction à ces groupes de gens qui sont contre une société ouverte. Cela est encore plus vrai sur la question des migrants. Nous sommes tous des étrangers, surtout si ces groupes deviennent organisés. Cela peut constituer un vrai danger.
Plus de la moitié des Estoniens se prononcent contre l'union civile. Pour les homos, un Estonien sur cinq estime que les réfugiés sont le plus grand problème du pays, alors qu'aucun n'est encore arrivé avec le programme européen de relocalisation. La société estonienne est tiraillée entre ouverture et repli sur soi, et la coalition au pouvoir, plutôt faible, pourrait bientôt en faire encore les frais.
On la disait peu agréable, rude, voire hostile, mais la capitale russe est en pleine mutation. Depuis quelques années, Moscou se métamorphose avec l'ambition de devenir une capitale moderne. L'un des signes visibles, c'est la disparition des kiosques, ces petits commerces qui avaient fait leur apparition dans les années 90. Et ces derniers jours, la municipalité a lancé contre eux une offensive spectaculaire. Étienne Bouche nous appelle de Moscou.
À la sortie du métro Leninsky Prospect, il y en avait partout. Des petits préfabriqués où l'on pouvait acheter des théières, des sous-vêtements, des produits d'entretien. Une pharmacie miniature côtoyait un fleuriste et un vendeur de kebab. Après le travail, sur le chemin du retour, les moscovites pouvaient attraper une bouteille de lait, une ampoule de rechange ou bien faire des photocopies. Loin du centre, ces commerces de proximité pouvaient être bien utiles. Seulement, la municipalité les a depuis longtemps dans le viseur. Pour la plupart, ces kiosques s'étaient installés tout près des stations de métro, au détriment des normes de sécurité, selon la mairie. Et il y a quelques jours, une offensive a été lancée dans toute la ville, en pleine nuit. Résultat, à Leninsky Prospect, il ne reste plus rien. Des pelleteuses engloutissent ce qu'il reste des échoppes. Environ 15 000 personnes se seraient retrouvées sur le carreau. Les indemnités destinées aux propriétaires restent pour l'heure assez floues. Pour les autorités, il s'agit de remettre de l'ordre dans l'espace public. Sur Vkontaktier, le Facebook russe, le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a insisté sur l'illégalité de ces constructions. La majorité était apparue dans les années 90, avec la complaisance des fonctionnaires. L'opération de démantèlement a été soudaine, elle a surpris les moscovites. Si certains regrettent ces magasins d'appoint, la majorité soutient plutôt leur disparition. Ces kiosques n'étaient pas très beaux, et ces dernières années, la capitale est en plein ravalement de façades. Dans le ventre des bulldozers, c'est une partie du Moscou post-soviétique qui vient de disparaître.
C'est une rencontre exceptionnelle à laquelle nous invite Mathilde Auvillain, notre correspondante en Italie. Elle a pu passer quelques heures avec le prix Nobel de littérature 1997 à Milan. À la veille de ses 90 ans, Dario Fo, génie vivant, aime proclamer qu'il ne trouve pas le temps de vieillir. Après une carrière de peintre prêté au théâtre, il se consacre désormais à la peinture justement et à l'écriture. Mais il lui arrive encore de monter sur les planches. Dario Fo reste l'auteur de théâtre le plus représenté dans le monde. Il n'a d'ailleurs rien perdu de son énergie créatrice, de sa verve anticonformiste et de son esprit critique envers la politique, l'église ou le capitalisme. Dario Fo au micro de Mathilde Auvillain.
Dario Fo, bonjour et merci de nous recevoir dans votre atelier milanais. Je vais vous interrompre dans votre travail pour parler de ce livre Razza di Zingaro que vous venez de publier à la veille de vos 90 ans. Dario Fo, pourquoi le prix Nobel de littérature 1997, prix Nobel décerné pour votre œuvre théâtrale, pourquoi vous avez ressenti l'urgence de prendre la plume pour écrire l'histoire de ce boxeur, de ce héros Sinti, mort dans un camp de concentration nazi?
Toute cette histoire remonte à un voyage en Camargue, il y a longtemps. C'était 5 ou 6 ans après la guerre. Et c'est là-bas que j'ai découvert la poésie incroyable des gitans.
Incredibile, qui avait une littérature. Et puis...
Ensuite, lorsque je suis allé pour la première fois en Espagne après la chute de Franco, j'ai rencontré des gitans espagnols. Nous avons fait un spectacle ensemble. Je le garde comme un souvenir extraordinaire. Ce jour-là est née une profonde amitié et ce jour-là, j'ai découvert aussi l'immensité de la diversité d'approches dont la poésie, la littérature, la chanson, la musique, la culture espagnole dans son ensemble a bénéficié grâce à la présence de ces gitans. J'ai été marqué marquée par l'amitié que les Espagnols leur témoignaient, qui contrastait fortement avec les préjugés sur les gitans voleurs, sur cette conception colportée par le nazisme, qui qualifiait les Roms, les Tziganes, les gitans d'être inutiles, insupportables et nocifs.
Alors, écrire l'histoire de ce héros Rom, de ce héros Sinti, c'était donc pour vous une manière de réhabiliter cette page d'histoire culturelle de l'Europe.
Nessuno sa, o sottolinea, che questo arrivo degli zingari in Europa risale al 300.
On parle peu du fait que l'arrivée des Roms, des Tziganes en Europe remonte au XIVe siècle, voire au XIIIe siècle, au temps de Dante, ou même de l'époque des grands poètes lombards. Ils avaient un succès incroyable auprès du peuple et des cours. En Italie, c'était l'époque des duchés naissants. Leur présence correspond à un grand renouvellement dans la culture, dans la forme, notamment avec le fait d'exprimer avec tout le corps le discours poétique, l'espace rempli de gestes, qui est d'ailleurs aussi un élément fondamental dans la culture des Italiens.
La cultura degli italiani che partita da una cacciata dei cantori, dei fabulatori.
Et d'ailleurs, les chanteurs, les fabulateurs ont été chassés d'Italie. Ils ont dû fuir à l'étranger jusqu'au XVIe siècle, formant une véritable diaspora. Or, il n'y a aucun lien, aucune conversion dans l'écriture de notre histoire, de ces parallèles, pour aborder ainsi la question des Roms, dont la culture est immense.
Il problema degli zingari, e che hanno una cultura enorme.
Et donc réécrire la vie de Johan Trollmann, cet athlète de haut niveau qui a été brimé, persécuté, envoyé en camp de concentration en raison de ses origines roms, en quoi cela vous est-il apparu nécessaire de raconter cette histoire de nouveau aujourd'hui ?
Et perché quello che sta succedendo si ripete meccanicamente.
Parce que ce qu'il s'est passé dans l'histoire se répète mécaniquement. La haine envers celui qui est différent revient et nous voilà de nouveau à décrire les étrangers désespérés qui fuient du Moyen-Orient comme des ennemis. Parce que lorsque l'on n'a plus rien à raconter pour abrutir le peuple et ses sujets, alors on cherche l'ennemi. Les Romains disaient « Donnez-moi un ennemi, je vous ferai empereur ». Et le peuple accroche tout de suite et le peuple tombe dans le panneau. C'est le piège le plus simple, parce que c'est la vraie meilleure nourriture pour un peuple affamé. Avoir un ennemi permet de se distraire et d'oublier les vrais problèmes.
Finalement, si riesce à distraire, à tirer via des vrais problèmes.
Et enfin, Dario Fo, vous l'intellectuel, vous le prix Nobel, quels sont les vrais problèmes dans l'Europe d'aujourd'hui, dans l'Europe de 2016?
Mais les vrais problèmes aujourd'hui, ce sont les banques. Le vrai problème, c'est le trafic cynique et criminel que font les banques. Toute la crise économique, c'est à cause d'elles, mais personne ne le dit. Elles ont commencé par arnaquer l'Amérique et puis ensuite l'Italie.
Les stesse truffe sont arrivate in Italia. Il governo è intervenuto solo per aiutare le banche.
Et l'État n'est pas intervenu. Non, le gouvernement n'intervient que pour aider les banques. Et les pauvres gens qui ont été arnaqués, eux, ont été abandonnés sans aide, comme s'ils n'étaient personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on invente les Tziganes, les étrangers. On donne du crédit à tous les fantasmes qui tournent autour. Et alors, tout d'un coup, on nous dit que nous voilà envahis. On nous dit, les enfants meurent dans la mer. Eh bien, c'est la faute des migrants. Ils n'ont qu'à pas emmener les enfants avec eux. Il n'y a plus de dimension humaine. Il n'y a plus de rapport civil. Tout est anéanti.
Et naturellement,
ceux qui sont arrivés depuis des années en Allemagne, en Italie, qui travaillent et qui ont des familles, qui payent les taxes, passent tout à coup pour des délinquants. Voilà la grande farce que ces personnes-là doivent supporter. Et c'est plus ou moins ce qu'avait fait le Reich avec les Tziganes.
C'est plus ou moins ce qu'a fait le Reich.
Razzad Zingaro, le dernier roman de Dario Fo qui était interrogé par Mathilde Auvillain. On connaît la passion des Anglais pour leurs animaux domestiques, elle va parfois très loin. Et voilà l'histoire de Félix the Cat, une femelle, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, qui a été reconnue comme employée du mois à la gare de Huddersfield, dans le nord de l'Angleterre. Car le job du matou angora noir et blanc, eh bien sûr, c'est de chasser les souris. Marie Billon.
Le matin, à l'heure de pointe, les passagers ont l'habitude de voir Félix tranquillement assise sur le quai. Elle a l'air d'inspecter, mais elle est certainement frustrée. Trop de monde, impossible de se mettre en chasse dans ces conditions. Car Félix est une employée modèle, exploitée même devrait-on dire. Pas d'horaire, aucun jour de congé, le matou est toujours sur le pont. Alors la gare a décidé de faire un petit geste. Félix a été promue, elle est désormais très officiellement senior pest controller, responsable de la lutte contre les nuisibles. C'est écrit sur son petit badge accroché à son gilet de service, jaune fluo bien sûr comme tout le monde, sauf que Félix a le droit de ne pas porter son jaune de travail lorsqu'elle est en service. Pas facile effectivement de courir discrètement dans cet accoutrement. Souris, rats, pigeons, rien ne résiste à Félix, surtout qu'il lui suffit de flairer l'ennemi pour partir en trombe. Une trappe vient d'être installée pour la laisser passer les nouvelles barrières de sécurité sans avoir besoin d'une main humaine charitable. Évidemment, Félix n'est pas payée, ou alors peut-être en pâté et en croquette, mais elle est adulée par ses collègues et par les passagers. Elle a même l'impression d'être la maîtresse des lieux, dit un employé. Et les plus de 51 000 fans qu'elle a sur sa page Facebook ne vont pas la faire descendre de son petit nuage. Certains lui écrivent des déclarations d'amour, d'autres lui demandent gentiment si elle est bien au chaud et pas sous la pluie en train de trimer. Et Félix répond sans trop de sarcasme, ce à quoi on aurait pu s'attendre de la part d'un chat. Quant aux demandes en mariage des chats domestiques, elle les ignore, même quand ils envoient leurs petits minois en photo.
Ladies and gentlemen, this next record needs no introduction.
Notre rendez-vous du vendredi. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, une rencontre pop venue d'Écosse que vous connaissez bien, Vincent.
Vous vous souvenez sans doute du cycliste espagnol Pedro Delgado qui, en son temps, remporta le Tour de France. Mais peut-être n'avez-vous pas connu The Delgados, merveilleux groupe écossais qui avait emprunté son nom au cycliste et enregistré 5 disques entre 1994 et 2005. Le groupe n'existe plus, mais sa chanteuse, Emma Pollock, poursuit aujourd'hui une discrète carrière solo avec la publication cet hiver de son 3e album, le premier en 6 ans, In Search of Harper Field, où l'inspiration est toujours au rendez-vous au fil d'une petite douzaine de chansons pop à la fois efficaces et joliment orchestrées, guitare, percussion et cordes au programme, comme sur cette Don't Make Me Wait.
On se quitte sur Don't Make Me Wait, extrait du 3e album d'Emma Pollock. C'est la fin d'Accent d'Europe. On dit au revoir également à Boris Fichit qui était à la réalisation. En retour de Françoise Grelot lundi. Restez à l'écoute dans quelques instants. Les infos.